Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous ceux que je n'aurais pas salués, qui sont passés à travers les mailles du filet. Enfin, façon de parler, hein. Bien. Alors, ce matin, nous allons ouvrir un passage dans notre Bible. Et nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le livre des Chroniques. Alors, il y a deux livres de Chroniques dans la Bible. Première et deuxième texte, premier texte, deuxième texte, mais nous allons prendre dans 2 Chroniques, chapitre 24. Chapitre 24, et c'est l'histoire de deux hommes que nous allons découvrir, dont un roi de Juda et un homme d'une grande autorité spirituelle. Alors, normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Hein. Si tous les rois avaient des conseillers et on pourrait peut-être dire des accompagnateurs, peut-être que les choses seraient différentes. Aujourd'hui, on a la diplomatie et elle rend certainement des services, hein, aux nations, au peuple, mais c'est pas tout à fait la même chose que nous allons découvrir. Et c'est bien d'avoir cette version de la Bible. Cette version de la Bible, pour nous réjouir des bienfaits de ce que cette association, roi et également cet homme qui s'appelle Jéhojada, ça vous dit quelque chose? Jéhojada. Et puis l'autre s'appelle, c'est le roi de Juda, il s'appelle tout simplement Joas. Alors on va lire ça. Ça va être, je vais faire la lecture par section, on peut dire ça aussi. Alors, 2 Chroniques, chapitre 24, verset 1er. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zija de Beersheba. Deuxième partie, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et écoutez bien la suite parce que ça va être le pivot de notre réflexion. Il fit ce qui est droit aux yeux de Dieu pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Ça, c'est notre première lecture et nous allons faire une deuxième lecture qui montre, eh bien là, le cœur d'un autre homme qui est apôtre de Dieu, apôtre du Nouveau Testament, apôtre de l'Évangile, c'est l'apôtre Paul, qui écrit tout simplement eh bien, ces lignes, et ça va nous servir de référence dans notre passage. Donc, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7 à 12. Et voilà ce qu'il fait, il fait une lettre et il commande cette lettre, il encourage les chrétiens de Thessalonique, c'est une ville qui existe encore aujourd'hui, hein. Et il dit ceci, première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 7, d'accord ? Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. C'est Paul qui écrit. Hein. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour être à la charge de personne. Je passe au verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Voilà les propos de Paul qui viennent en complémentarité de notre texte dans le livre des Chroniques. Je voudrais souligner par une appellation particulière, distinctive, je voudrais souligner et mentionner, parce que j'ai donné un titre, précaire dépendance. Alors je vais vous expliquer le sens de ces deux mots, précaire dépendance, naturellement ce sens appliqué à la situation. Je rappelle que les principaux protagonistes de l'histoire, c'est une reine qui s'appelle Athalie. Ça vous dit quelque chose, Athalie ? C'est une sorte de Jézabel, pour ceux qui connaissent bien, qui sont familiarisés avec la Bible. Une sorte donc de Jézabel, c'est une reine sanglante de la famille de David, descendante, lointaine descendante du roi David. C'est une usurpatrice qui décime, ou qui va presque décimer la race royale de David. Dieu avait promis à David qu'il y aura une descendance. Ça n'a pas empêché Dieu de, malgré tout ce qui s'est passé dans le peuple d'Israël, le peuple de Juda, malgré les hauts et les bas, malgré les sommets et les abîmes, Dieu a tenu parole. Il a donné un descendant à David qui s'appelle Jésus-Christ. Même s'il y a une Jézabel par-ci, même s'il y a une Jézabel, et puis bien d'autres, Athalie ou d'autres personnages qui ont voulu véritablement éteindre la promesse de Dieu qu'il y aurait, à un moment donné, celui qu'on appellerait le Messie pour Israël et le Sauveur de tous les hommes, et Jésus est venu. Et là, à ce moment-là, c'est la réalisation. Et dans cette tragédie familiale, dans le palais de Jérusalem, il y en a un seul qui va échapper. C'est pour ça qu'il y a eu une continuité. Ce seul, c'est un enfant qui va devenir roi, ou un roi enfant, au destin béni mais controversé. Au départ, ça va très bien. C'est formidable. Quand Joab, pas Joab, mais je me rappelle toujours jamais de son nom particulièrement, mais Joas, voilà, pas confondre avec Joab, que vous pourrez retrouver dans la Bible pour autre chose. Joas, tant qu'il était enfant, tant qu'il était adolescent, longtemps dans sa jeunesse, et même lorsqu'il était devenu un homme fait, tout a été formidable et tout était très bien. Et on va expliquer pourquoi. Et à la fin de sa vie, ça a été une catastrophe. Et vous savez, la Bible nous dit, ne jugez pas les commencements, mais jugez à la fin des choses. Parce que quelquefois, il peut y avoir des circonstances, toutes sortes de situations qui font que, là, quelquefois, c'est le jour et la nuit. Les choses sont bouleversées à un moment ou à un autre. Donc, un destin béni au départ, et ensuite controversé. Et imaginez-vous un roi qui règne 40 ans. Imaginez-vous un président de la République qui règne 40 ans. Ça va plus vite maintenant, hein ? Oui, c'est accéléré. C'est en accéléré, mais tout est en accéléré, quoi qu'il en soit. Alors, cet enfant roi s'appelle Joas. Il a échappé de peu à l'acte criminel de sa grand-mère, parce que c'est ça, c'est sa grand-mère. Et nous voyons que c'est de la pure folie. Mais c'est comme ça que ça se passait. C'est comme ça que ça se passe encore dans certainement pas mal de nations, où quand quelqu'un nous dérange, on l'élimine. Pas chez nous, heureusement, fort heureusement. Mais il y en a eu des assassinats, même chez nous, quoi qu'il en soit. Alors ça, c'est la première partie, donc, les protagonistes, Athalie, on se souvient, on va passer très vite, Joas, naturellement, dont je viens de parler. Et puis, il y a dans cette période troublée, il y a un homme de Dieu qui va se révéler un homme de Dieu d'exception, c'est un sage et c'est un homme qui est rempli de foi dans son Dieu dans le Dieu d'Israël, et son nom, c'est tout simplement Jéhodaja. Donc il y a un enfant d'un côté, qui va être suivi, élevé, conseillé par tout simplement Jéhodaja. Et il y a quelque chose que je voudrais attirer votre attention, ça nous aidera certainement de comprendre. Au verset 14 de notre même chapitre, il nous est dit tout simplement cette petite annotation, Chronique, chapitre 24, et il nous est dit « Pendant toute la vie de Jéhodaja, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de Dieu », c'est-à-dire que le service, c'est-à-dire que la foi en Israël, c'est-à-dire que tout ce que Dieu avait établi pour une bénédiction durable pour le peuple d'Israël, ça fonctionnait. J'ai bien remarqué, hein, parce que quand il est dit que le temple fonctionnait, c'était tout le reste qui fonctionnait, hein, avec véritablement, et bien là, une foi, une bénédiction particulière. D'ailleurs, là où je voudrais souligner tout à nouveau, il nous est aussi, dans le texte premier que nous avons lu, il nous est dit que Joas fit ce qui au droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie de Jéhodas, ou de Jéhodaja. Pendant toute la vie. Ça veut dire que tant que cet homme d'exception a été auprès du jeune roi, et puis ensuite, tout a été formidable. Et à un moment donné, il y a comme une rupture. Jéhodaja, qui était déjà un vieil homme, va mourir. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Et à ce moment-là, tout s'écroule. Et je voudrais déjà souligner une première remarque. C'est que nous avons pu être élevés d'une certaine manière, une éducation, voilà, toutes sortes de choses. Mais nous ne dépendons pas d'un homme, et ça je voudrais le marteler devant l'Église, nous ne dépendons pas d'un homme, pasteur, curé, pape, tout ce que vous voudrez, nous dépendons de Jésus-Christ. Et il y a quelquefois des surprises dans l'Église où des hommes ont marché, des hommes, des femmes, ont marché toute leur vie, et à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose qui casse. Parce que l'homme qui était là pour soutenir, pour bénir, pour accompagner, pour conseiller, n'est plus là. Et là, je crois que c'est une erreur que nous faisons dans nos églises, mais dans beaucoup d'églises, dans toutes les communautés chrétiennes, entre guillemets, c'est que nous ne dépendons pas d'un homme, soit-il, aussi bien, aussi formidable soit-il, mais nous dépendons de Jésus. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et combien de fois nous avons vu l'Église se remplir, l'Église se vider, en raison de tel ou tel pasteur, en raison de tel conducteur spirituel, en raison de ceci et cela, et tant que véritablement, eh bien là, il est là, tout marche, et à un moment donné, il s'en va, tout saute. C'est quelque chose, hein. Et on n'y échappe pas, nous aussi, hein. On a tellement d'exemples sous les yeux où quelquefois on a vu des belles communautés en qualité spirituelle et en quantité dans le nombre où en deux temps de mouvement, il n'y a plus rien. On ferme les portes. Il nous est dit aspirer aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Nous sommes de passage sur la terre. Et Dieu nous fait la grâce de nous donner des accompagnateurs. Il nous donne d'avoir des hommes d'exception. Il nous donne d'avoir... Et les hommes d'exception, ce n'est pas ceux qui crient le plus fort, hein. C'est ceux qui vivent modestement, qui vivent avec beaucoup de sens pratique, quelquefois, ou de bon sens, de sagesse, d'intelligence dans les choses de Dieu. Et là, à un moment donné, eh bien, l'effet de la vie qui passe... Il y a la naissance, il y a la vie, et puis il y a la mort. Et puis, ben voilà, nous avons perdu des amis. Nous avons perdu des grands hommes, quelquefois. Nous avons perdu de grandes femmes qui ont été au milieu de nous, et aujourd'hui, ils ne sont plus là. On n'en parle pratiquement plus, nous avons le souvenir. Un souvenir souvent très affectueux, parce qu'ils ont été nos nourriciers. Ils ont été nos pères et nos mères, spirituellement. Moi, je sais de quoi je parle, après bientôt 50 ans de ministère. Des gens qui nous ont accompagnés. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, hein, ça c'est sûr. On a rencontré quelquefois des Judas, on a rencontré toutes sortes de gens qui étaient mal disposés. Mais bon, peu importe cela, ça ne nous intéresse pas. Moi, je veux regarder ce que Dieu a donné de bon. Et c'est à nous de pouvoir en tirer véritablement des conséquences. Et des conséquences que ce ne soit pas une bénédiction uniquement égoïste pour moi, mais que ce soit une bénédiction pour tout le monde. Et Dieu nous a demandé d'être ces gens-là. Alors, j'ai dit un homme de Dieu d'exception, on l'a vu. Et cette petite annotation qui nous est dit, mais il est simplement rappelé, il a été droit, Joas, toute la vie du sacrificateur, ça en dit long. Parce que le jour où Judas est mort, c'était plus pareil. Et on va voir dans le détail comment ça s'est passé. On va le voir. Et la question qui se pose, peut-on avoir un tuteur spirituel ? C'est ce que c'est, un tuteur ? C'est pour tenir. Voilà. C'est une forme d'orthopédie pour nous tenir droit et nous permettre de marcher droitement également. Donc, nous voyons cette question qui apparaît, peut-on avoir un tuteur spirituel, et je dis bien à vie. C'est qu'à un moment donné, nous avons été enfants, nous avons été adolescents, nous avons été hommes, mûrs, et puis il arrive un moment donné où dans la fin de notre vie, on se dit, je me suis beaucoup plus appuyé sur tel homme que je me suis appuyé sur la foi en Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons avoir un père spirituel ? Mais bien sûr, moi j'en ai eu un, c'est lui qui m'a formé, il était mon maître de stage, et... Voilà. J'ai connu des choses, j'ai appris des choses, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Comme Paul le dira, au pied de Gamaliel, et pourtant c'est un universitaire, Paul, l'apôtre Paul. Hein, et il avait un homme qui, même s'il n'était pas chrétien, Gamaliel, mais néanmoins il y avait quelque chose chez lui. Dieu met auprès de nous des conseillers, si nous voulons entendre leurs conseils. Hein, ça, c'est pas... Il nous donne aussi des références, de modèles de vie. Et c'était justement le cas de Jehoiada. Il était un modèle, cet homme de foi, Jehoiada, était un modèle de foi pour le roi d'Israël et le peuple d'Israël, le peuple de Juda. Et nous voyons que quand un roi donne l'exemple, c'est bon signe. Hein. Mais quand c'est le contraire, et nous allons le voir tout à l'heure, c'est catastrophique. Alors, dans ces débuts de cette royauté de ce jeune roi, un peu plus loin peut-être, il était 40 ans roi, alors il y avait de quoi faire. Hein. À un moment donné, au début, ça a été quelque chose de formidable, une bénédiction sur le peuple de Juda extraordinaire. L'action de l'esprit qui a remué les cœurs, remué les consciences pour remettre en place le temple de Jérusalem qui était véritablement négligé, la vie spirituel de Juda, qui avait été négligé, on faisait tout et n'importe quoi. Et là, il y a eu des réformes. Ce n'était pas la retraite à 64 ans, mais toujours est-il qu'il y a eu des grandes réformes. Et tout le monde a remonté ses manches en disant, maintenant, nous voulons servir Dieu, comme nos pères ont servi, et nous aurons la bénédiction. Et de fait, la bénédiction est venue. Eh oui, elle est venue et abondamment. Alors, nous avons toujours dans ce chapitre, au verset 4, je vais le lire simplement. Après cela, après cette intronisation de Joas comme roi, nous voyons que le roi eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Il assembla les sacrificateurs et les lévites, c'était la caste religieuse de l'époque. Et il dira, allez par les villes de Juda et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Et mettez à cette affaire de l'empressement. Alors, il nous est dit que tout le monde s'est hâté de véritablement répondre. Le roi appela Jehoiada, le souverain sacrificateur, et lui dit, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait, etc., etc. Et les choses ont été faites, et la splendeur du temple de Dieu, la gloire de ce temple qui était dans l'Ancien Testament, dans la figure de l'Ancien Testament, quelque chose de très très important. Alors tout ça, ça a été mis en place, tout simplement, les temps des grandes réformes. Retour de Juda à la foi, sous l'instigation de Joas et de Jehoiada. Ouais, c'était quelque chose de formidable. Dans nos églises, nous avons connu des temps de grande faiblesse, d'apathie, d'effondrement. de toutes sortes de choses que nous avons connues et que nous avons véritablement, eh bien là, constatées avec beaucoup de stupeur. Parce qu'il faut penser que le travail que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y en a d'autres qui nous ont précédés et ils ont mouillé leur chemise. Et je peux vous dire qu'on a eu des évangélistes avant nous, on a eu des pasteurs avant nous. Et ils ont fait du travail, il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas fait ce qu'il fallait, mais il y en a d'autres aussi, et c'est cela qu'il faut remarquer, même dans cette église de Saint-Nazaire. Lorsque nous avons vécu à Angers, il y a eu un travail extraordinaire, il n'y avait rien, et après, nous avons vu qu'au fil des temps, en 50 ans, moi j'étais pasteur une vingtaine d'années là-bas, je peux vous dire que ça a été, c'est pas parce que j'étais pasteur là-bas, hein, mais c'est parce qu'il y a eu des gens, il y a eu des anciens, il y a eu des hommes d'une intelligence spirituelle qui ont su faire ce qu'il fallait, et après, ça a été une bénédiction. Moi, je me souviens toujours des années 90, les salles étaient pleines. Quand je parle de Saumur et de Cholet, les salles étaient pleines. Il y avait des missions, il y avait toutes sortes de choses. Bon, je n'irai pas à la suite parce que c'est mon histoire, finalement. C'est l'histoire qu'on est en train de développer. Et gardons le positif et oublions le négatif. Donc, un temps de grande réforme parce qu'il y a eu un retour vers Dieu. Et Dieu a béni ce retour. Tu t'éloignes ? Eh bien, attends-toi à la sécheresse et au dessèchement, à la faim et à la soif. Enfin, je parle sur le plan moral. C'est le monde d'aujourd'hui. Maintenant, tu restes fidèle à Dieu, eh bien, Dieu va te conduire, il va te bénir, pas à pas. Et tu verras, à un moment donné, tu pourras faire, eh bien là, le constat, recommande, nous dit un psaume, recommande l'Éternel dans toutes tes voies. Ne l'oublie pas, parce que ça ne sera pas pour, finalement, eh bien, ton épanouissement. Et puis, dans notre texte, là je vais redonner encore quelques versets, puis vient le temps où le père spirituel, Jéhovah, parce que je l'ai pris en modèle, je lui ai donné un nom, où le père spirituel disparaît, celui qu'on appelait le maître, hein. C'est pas un gourou, hein. Pas confondre, hein. On n'est pas dans les sectes et dans l'occulte là, hein. On est dans la vie spirituelle divine. Ce maître disparaît, le guide tutélaire, hein, qui quelque part était espéré de tous, non pas seulement par son enseignement, mais par la vie où il mettait en pratique son enseignement, parce que dire est une chose, agir c'en est une autre. Hein. Et ça c'est sûr. Hein. Alors à ce moment-là, quand le chêne tutélaire, hein, celui sur qui eh bien, là, les choses sont basées et sont solides, alors que deviennent les enfants restés seuls? L'Église devient orpheline à ce moment-là. Le pasteur en titre, celui qui a été le pionnier, celui qui a été l'apôtre dans une région, etc., etc., il est mort. Oui, mais ça, c'est comme ça, c'est inéluctable. Alors, que deviennent les enfants restés seuls? Que deviennent les chrétiens dans les églises où finalement, eh bien, il y a cette disparition? Quand je dis les enfants, on peut avoir 90 ans et être un enfant, enfant de Dieu, je veux dire, hein. Est-ce qu'ils sont matures pour prendre la suite? Est-ce qu'ils sont suffisamment forts pour renouveler l'expérience dont ils ont vu la vie et les modèles et l'exemple? Ou alors, à ce moment-là, ils vont s'écrouler en disant « nous avons tout perdu, nous sommes incapables de faire et d'aller plus loin ». C'est une question de maturité. Et je voudrais vous dire, mes amis, dans les temps dans lesquels nous sommes, on est peut-être à la merci de grands troubles dans le monde actuellement. Hein, et tout le monde en est conscient, hein, chrétien ou pas, hein, peu importe. Mais si l'on ferme les églises, si l'on casse les communions fraternelles et tous ces rassemblements et tout ça, qu'est-ce que nous allons devenir? C'est maintenant qu'il faut se charger. C'est ne pas faire comme la cigale qui a chanté tout l'été et au moment où ils vont avoir besoin de cette substance nécessaire, spirituel, ils ne la trouveront pas en disant « mais on a raté des occasions ». Et ça, c'est vraiment préjudiciable. Alors, cette Jéhovah va mourir, et au verset 16, il est dit ceci, « On enterra Jéhovah dans la ville de David avec les rois ». Vous vous rendez compte? C'était un simple prêtre, c'était un sacrificateur. C'était un homme de Dieu, certainement, assurément. Mais la nation, après des années, des décennies, certainement, d'application à faire du bien au peuple de Dieu, il nous est dit qu'il a été enterré avec les rois. Eh oui. Et vous verrez le contraire avec Joas. Lui, il est enterré dans la plus grande discrétion, comme ça, très... parce qu'il avait fait du bien à Israël à l'égard de Dieu et de sa maison. Il y a une passion. Vous savez, les hommes ont des passions. Hein. Moi, je ne peux pas en discuter parce qu'elles sont de toute nature et sous toute forme. Mais l'apôtre Paul, qui écrit ces lignes que je voudrais vous lire, eh bien, l'apôtre Paul était un leader et il avait une passion. Et à un moment donné, il écrira tout simplement ses paroles. Et il s'adresse à une église de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Il nous dira « Nous vous prions d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent, dans le Seigneur, qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » On a souvent critiqué ceux qui sont responsables. Ça fait partie de la règle du jeu quand on est pasteur ou quand on a quelques fonctions particulières, même frère ancien ou même tout simplement chrétien, et que nous voulons marcher avec le Seigneur. Mais regardez, Paul exhorte les chrétiens, ce sont des hommes qui vous ont exhorté, qui vous ont béni, qui vous ont, eh bien là, ayez beaucoup d'affection pour eux, parce qu'ils ont souvent laissé leur vie. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'Église persécutée, avec des leaders qui sont à la tête d'Églises persécutées. Par exemple, aux Indes, où nous avons, je crois, 250 orphelinats qui tournent actuellement. Eh oui, c'est quelque chose de terrible. Et de temps en temps, on entend, ben voilà, un tel, on lui a coupé la tête. Un tel, on l'a mis en prison. On a confisqué sa famille. Enfin, on a fait toutes sortes de choses. Là, ça ne nous parvient pas beaucoup parce qu'on n'en parle pas beaucoup hein, chez nous. Hein. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, c'est le type de Géodaja. Alors cette histoire, elle nous oblige à réfléchir sur la réalité profonde de nos racines et sur quel terrain nous sommes établis. Est-ce que nous sommes établis sur un terrain humain, avec des hommes autour de nous, que nous estimons, que nous aimons, que nous affectionnons, etc., mais seulement sur des humains? Ou est-ce que véritablement nous ne sommes pas exhortés dans toute la Bible prospérer notre foi et notre vie intérieure en nous basant uniquement sur Jésus-Christ. Eh oui, parce que c'est Jésus-Christ qui est la base. Christianisme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est Christ. Alors on lui a donné toutes sortes d'appellations pour troubler peut-être ou pour changer les choses. On lui a donné le titre de protestant, d'évangélique, de catholique, d'orthodoxe, avec toutes les multitudes qui sont autour. Non, on est chrétien parce qu'on appartient à Christ et on n'appartient pas à monsieur le pasteur un tel ou à monsieur le curé un tel ou des choses comme ça. Pas du tout. On appartient à Jésus-Christ. Tout simplement, c'est lui. À la fin, qu'est-ce qu'il nous restera? Peut-être ceux que nous avons connus et qui nous ont été en bénédiction, ils sont morts depuis longtemps. Il nous restera Jésus, c'est tout. C'est Jésus et Jésus seul, parce qu'il est le seul à être ressuscité. Et nous allons le rejoindre à travers la résurrection. Ah, ça ne sert pas les allures de la terre, hein, ça je peux vous le dire. Ça nous oblige à réfléchir en qui et à qui dévolue-t-on notre attachement, notre respect, notre dévouement. Aimer Jésus à travers ses hommes, oui. Mais si nous n'aimons plus Jésus parce que nous aimons davantage certains hommes, ça ne va pas. Ce sont des amours-passions qui sont illégitimes, tout ça. Et le mot-clé de dépendant, parce qu'on va le terminer sur cette pensée, la dépendance. La dépendance ou l'indépendance. Alors, ce mot-clé, c'est être lié, c'est être subordonné à un modèle qui est respecté, c'est vrai. Mais il faut savoir où se situe notre dépendance. Si elle se situe sur Jésus-Christ, c'est une chose. Si elle se situe sur les hommes, aussi bon soit-il, c'est autre chose. Quand le modèle n'est plus pour montrer la voie Le risque est que le régime change et le peuple sans repère et sans frein se livre à la déliquescence de toute nature. Eh oui, vous savez, notre société, on vit quand même relativement heureux, même si beaucoup de gens se plaignent, mais en tous les cas, bon, il y a des gens qui apprécient. Mais vous savez, elle est en train de se diluer, notre société. Moi, je ne veux pas être un critique, non, mais je constate. Quand on voit, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à dire de ce qui se présente autour de nous. Hein. À commencer par la jeunesse. J'ai rien contre la jeunesse, j'ai été jeune. Ça, c'est sûr. Mais dans tous les domaines, ce n'est que révolte, rébellion et contestation. Avec ça, on ne va pas aller loin. Hein. Ça, c'est sûr. Je ne fais pas de la politique. Hein. Mais celui qui sème livré va récolter de livré. Ça, c'est clair. Parce qu'il n'y a plus de normes. Parce qu'il n'y a plus de ceci. La loi poussée à l'extrême n'est pas bonne non plus. Parce qu'au contraire, elle va inciter. Puisque c'est interdit, on va le faire. Le libéralisme sans frein, c'est exactement la même chose. Donc c'est une question d'équilibre. Et Dieu nous donne finalement à vouloir, eh bien, aspirer à l'équilibre. Et pour Judas, c'était le retour à l'idolâtrie. Je vous ai parlé d'Athalie, je vous ai parlé de Jézabel. C'était des reines païennes qui se sont mariées avec des rois israélites. Et la seule pensée qu'ils avaient, c'était de ramener et de faire dévier le peuple de Juda vers l'occultisme, vers la magie, vers eh bien toutes ces choses dévoyées qui font partie du spirituel, mais pas du spirituel divin, du spirituel diabolique. Et aujourd'hui, vous savez, ça n'a pas changé. Hein. C'est exactement la même chose. Vous savez, c'est assez effrayant de voir ce que l'on voit et d'entendre ce que l'on entend à travers les superstitions. On en a parlé il y a dimanche, il y a 15 jours, ou je ne sais plus, je ne me souviens plus. Mais toujours est-il que les gens sont derrière un religieux, ils sont aussi superstitieux. À travers toutes sortes de médiateurs, toutes sortes de médiatrices, toutes sortes de choses. Et les gens pensent avoir la foi. Non, ils ont des croyances. Mais ils n'ont pas la foi au sens spirituel et au sens évangélique. Pas du tout. L'idolâtrie. Alors à ce moment-là, Joab s'était bien comporté. Il avait fait réparer la maison de l'Éternel à la gloire de Dieu. Et à un moment donné, Jéhovah disparaît. Et hop, on retourne vers les anciens démons d'hier. Joas était tenu par Jéhovah et il est livré à lui-même. Au verset 18, il est tout simplement dit, même le verset 17, on peut le lire, « Après la mort de Jéhovah, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant leur roi. » Ce n'est pas le roi qui a été devant ses conseillers et tout ça. C'est les autres qui sont venus, parce que ça commençait à leur chauffer, d'avoir un homme là, au palais, qui était le premier ministre, hein, Jéhovah, on pouvait dire que c'était vraiment le conseiller du roi, ils sont venus en disant maintenant, ça suffit, il est mort, on n'entend plus parler de lui, alors on continue, on revient en arrière, et on fait ce qu'on a envie de faire. Et vous savez ce qui est dit après? Alors le roi les écouta, et c'est là qu'il justement ne fallait pas écouter. Lui, il avait reçu un enseignement privilégié, il avait finalement à dire, bon, vous êtes mes conseillers, c'est bien, c'est gentil, mais on va continuer sur la voie qui nous a été montrée. Non, ils ont dévié vers le mal. Et quel mal? Parce que ce n'est pas le péché charnel, là. C'est le péché spirituel, que la Bible appellera, finalement, péché contre le Saint-Esprit. Alors, naturellement, tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'il est devenu après Joas, seul, abandonné à lui-même? Eh bien, il est devenu meurtrier. Et vous allez voir, pas n'importe quel meurtre. Il devient meurtrier de ceux qui lui ont fait du bien si longtemps. Et dans Proverbes, parce qu'écoutez, on ne touche pas à n'importe quoi et on ne fait pas n'importe quoi sans qu'il y ait des résultats négatifs par rapport à nous. Et ça ne viendra pas demain ou après-demain, ça peut venir dans des mois, dans des années. Hein. Il y a des retours, hein. De toute façon, il faut se le dire. Hein. Dans Proverbes, chapitre 17 et au verset 13, il est dit ceci, « De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Et ça, ça a été vérifié. Ah oui, des gens qui maudissent, des gens qui détournent, des gens qui trafiquent. Moi, j'ai toujours la pensée de Judas dans cette affaire, hein, parce que c'était quand même un champion du genre. Hein. Mais il y en a d'autres aussi, il y en a d'autres, hein. Ça c'est clair. Alors il va venir à ce moment-là, le peuple est sans frein, le peuple n'a plus d'autorité à travers d'autorité spirituelle. Alors à un moment donné, devant les paniques et devant le chaos qui s'installe en Juda et permis par le roi Joas, survient un prophète. Comme ça se faisait très souvent dans l'Ancien Testament, il s'appelle Zacharie. Vous pouvez, hein, si vous faites des études bibliques, vous allez voir des lectures, vous verrez. Il s'appelle Zacharie, et figurez-vous qui il est. Il est tout simplement le fils de Jéhodaja, le bienfaiteur. Et parce qu'il est le fils de Jéhodaja et qu'il va conseiller le roi de revenir, eh bien, à une raison beaucoup plus, on pourrait dire, raisonnable, à ce moment-là, le roi va le mettre à mort tout de suite. Il va donner à ses soldats de dire, eh bien, vous le mettez à mort, je ne peux pas l'entendre. J'ai entendu son père pendant 40 ans, maintenant, lui, c'est le fils, j'en ai rien à faire. Et il va être mis à mort, il va faire un petit peu comme Jean-Baptiste avec Hérode. Vous connaissez l'histoire, hein. Et mis à mort, résultat d'une triste et innommable, ingratitude, ce que Jésus va décrire dans la parabole des vignerons, qui vont tuer le fils. Ouais. Qui vont tuer le fils. Vous connaissez l'histoire, hein, c'est dans Luc. C'est une belle histoire à lire, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Tuer le fils, tout simplement. Et il va s'en suivre, après. Le royaume de Juda va s'effondrer, et il va s'en suivre que des guerres, des tourments pendant des décennies et des décennies. Dans Galates, et ça c'est aussi un avertissement qui nous est recommandé de ne pas oublier. Et l'apôtre Paul dira aux Galates, qui étaient bien partis, mais qui vont mal finir, il dira, mais vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Parce que la vérité, c'est notre conscience. Hein. Notre conscience, elle est capable de nous dire si c'est bien ou si c'est mal, si c'est vrai ou si c'est faux. Et ça, c'est pas une question de masse, c'est pas une question de majorité dans un pays. Mais c'est une question individuelle. Et c'est ça, justement, ce qui est important. Et un peu plus loin, Paul dira, « Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » Eh oui. Moi, quelquefois, ça me fait trembler quand je vois des gens, des chrétiens, qui sont têtus, qui sont butés. On leur dit, « Mais ne faites pas ça, faites attention. Après tout, moi, ça ne me regarde pas. S'il le fait, il le fait, et il verra bien ce qui va se passer. » Mais les gens font comme ils veulent, parce qu'ils n'ont pas à être dirigés par un directeur de conscience. Moi, je ne suis pas un directeur de conscience, mais je peux toujours leur dire, parce que ça scandale les autres. Quelquefois, ils viennent avec des problèmes dont ils se plaignent que c'est les autres qui les ont, finalement, qui produisent ces choses, alors qu'ils se plaignent de choses qu'ils ont créées eux-mêmes. Ils sont les artisans de leur propre malheur et soucis. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire. J'ai même eu l'occasion de le dire à certains pasteurs, hein. Bon, on m'aime pas trop, mais bon, voilà. Hein. Mais je le dis quand même, parce que moi, ma conscience me demandait de le dire, tout simplement. Maintenant, une fois que je l'ai dit, je ne reviens pas. Hein. Parce qu'ils le font ou ils ne le font pas, peu importe. Et nous voyons qu'à ce moment-là, eh bien, c'est vrai qu'il y a toujours des retours. Je vais finir. Je me resitue sur le plan d'une réflexion spirituelle ce matin. Pour un chrétien ou une église, et je rappelle, qu'est-ce qu'un tuteur spirituel? Ouais. Si vous avez des jardins, si vous avez des légumes, des tomates en particulier, c'est lourd. C'est pour mettre droit ce qui est tordu, ou ce qui a tendance à se vautrer dans la boue, s'il n'y a pas de tuteur. Vous avez quelquefois de beaux légumes, mais qui sont pourris, parce qu'ils sont là dans la boue. Alors vous mettez un tuteur, vous savez les spirales là, hein. Alors bon, je sais pas comment, ça pousse dessus, hein, de toute façon. Mais c'est pour que véritablement ça regarde le ciel, et que ça ne soit pas souillé, que ça ne soit pas perdu, que ça ne soit pas pourri, C'est ça le tuteur spirituel. C'est un accompagnateur. Et une chose que je voudrais préciser, parce que vous m'avez vu fonctionner presque pendant 20 ans au milieu de vous, mais une chose qui est certaine, c'est que moi, si quelqu'un vient me demander un renseignement ou de l'aide, je vais le faire. Mais si quelqu'un ne me le demande pas, moi, je peux y aller. Hein. Parce que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. On a essayé tout ça, vous tracassez pas. On l'a essayé. Hein. Mais moi, j'ai toujours invité les gens, si vous avez un problème, venez, on va prier ensemble, on en discutera. Et si je peux vous être en aide, à ce moment-là, on va le faire. Mais quand, quelquefois, les gens, ils viennent pas, ils sont obligés de se débrouiller tout seuls, malheureusement, alors qu'ils pourraient peut-être avoir un conseil avisé. Un accompagnateur, un tuteur, c'est celui qui veille sur. C'est exactement l'étymologie du mot évêque. Alors évêque, on va le laisser pour la religion. Hein. Mais ancien évêque, c'est celui qui veille sur quelqu'un pour l'accompagner et tout ça. Alors, la leçon de cette faillite dont nous parlons ce matin, c'est le problème des successions qui tournent mal. Ah, ça c'est un point important avant qu'on termine. Les successions qui tournent mal. Je l'ai dit tout à l'heure au départ, on a vu des belles églises en pleine prospérité. En toute honnêteté. Parce que si c'est les méga-churches des États-Unis, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Ça, faut le savoir. Hein. Mais vraiment où il y a une bénédiction de qualité. Ce n'est pas tant la quantité, mais de qualité. Et ça, c'est un travail sur des années, naturellement. Hein. Alors, c'est le problème, et je le répète, des successions qui tournent mal. Parce qu'il y avait une autorité, parce qu'il y avait un pasteur, parce qu'il y avait là un groupe de frères anciens qui étaient des hommes vraiment avisés et qui avaient le sens de la vie de l'esprit. Et ça marchait pendant longtemps même. Et pourtant, à un moment donné, on a vu que plus rien. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses que je sais de mon ancienne vie de pasteur. Mais une chose qui est certaine, c'est que il y a des situations qui sont à pleurer, mes frères et sœurs. À pleurer. Après 50, 60 ans de travail acharné, de voir que finalement le travail de rédemption de Jésus-Christ est par terre aujourd'hui, parce que les gens sont partis écœurés, je me dis, c'est terrible. Il ne reste même pas les murs. Alors que le financement de ces murs, c'était chacun des chrétiens qui était là. Parce qu'on n'est pas financé par l'administration, nous. C'est tout simplement essayer de trouver les moyens de pouvoir donner un salaire à un pasteur pour pas qu'il vive dans la misère, et puis aussi de construire quand il est possible, comme nous l'avons fait à Redon. Quand nous avons construit Redon, une salle toute neuve qui a maintenant près de 10 ans, vous savez, ça fait presque 10 ans qu'on a Redon. Une salle toute neuve. Et dont, grâce à vous, grâce aux redonnés, en 4 mois, nous avions tout payé. Alors, j'ai pas fait de hold-up pour ça. Hein. Non, soyez rassurés. Hein. Parce que je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. Mais quand Dieu bénit et il donne sa grâce, il donne son assentiment. Et c'est ça ce que nous devons avoir. Cette Église doit continuer pour être bénie. Mais ça dépend de chacun d'entre nous. Hein. Si nous voulons nous décourager, si nous disons « bah oui, mais bon, il y a ceci, il y a cela, je ne suis pas d'accord, etc. » Il faut que nous soyons unis les uns et les autres. Et moi, je pense que Géodaja et puis Joas, ils étaient unis pendant un certain temps. Il y en a un qui part, il y en a un qui meurt, et c'est l'effondrement. C'est terrible. Quand les successions tournent mal, ou la dépendance d'un chrétien mature qui nous a prodigué tant de conseils, qui nous a donné tant de recommandations et toujours les bons exemples auxquels, personnages, nous nous sommes fortement attachés, que nous avons beaucoup aimés, ils sont morts, que nous avons affectionnés, parce que c'était des personnalités de valeur morale et spirituelle, qui étaient notre référence, et qui ont été aussi, pendant que nous étions de jeunes chrétiens, le cadre harmonieux de notre vie. Que devenons-nous quand il a disparu? On ne vit pas pour ces hommes-là. On ne vit pas du souvenir de ces hommes-là, on vit finalement de la part de Jésus-Christ. Il est vivant, les hommes meurent, On va mourir les uns et les autres, vous le savez? Ah, c'est vrai? Mais on va tous mourir les uns et les autres. Et puis, vous avez connu des pasteurs qui étaient des gens remarquables. Ben, ils sont plus là aujourd'hui. Hein. On a des souvenirs très affectionnés de notre cher Claude. Moi, c'est pour moi, il m'a suivi pendant les 15 années que j'étais là. Je peux vous dire qu'il a été vraiment un accompagnateur. Vous connaissez bien, il était bien. Voilà. Parce que celui qui est là, dont on parle, eh bien, il n'est plus, il n'est même plus vivant, et sa disparition est parfois la cause de l'effondrement de la foi de certains. Ah bah oui, il est mort, bah c'est fini. Mais non, au contraire, on continue, on remonte nos manches, et on reprend la suite. Combien de fois je l'ai dit, et je le répète, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mais moi, quand il s'est agi de me remplacer dans la direction de cette église, hein, moi j'ai dit toujours, et j'ai prié, et nous avons prié avec Myriam, « Seigneur, envoie-nous un serviteur qui aille plus loin que ce que j'ai fait. » Ce n'est pas pour ma gloire. Hein. Bon, mais le Seigneur a un plan. Hein. Moi, je voudrais vous rassurer. Hein. Il a un plan. Et ça va venir, mes frères et sœurs. Ne baissez pas les bras parce que Alain est parti à la retraite et que vous me voyez un peu moins. Non, non, continuez. Continuez. Et vous allez voir le miracle de Dieu. Moi, j'y crois en tous les cas. Hein. Bon. Je termine sur le mot. Qu'est-ce qu'être dépendant, dépendant d'un homme, même du meilleur, et nous sommes exhortés, finalement, à entretenir cette relation. Et de dire, eh bien maintenant, le vieux, il est vieux, c'est fini, on n'est plus de ce temps-là, attention à ça, hein, parce que je peux vous dire que ça, c'est du mépris. Hein. Regardez l'histoire de Lot et d'Abraham, et puis il y en a eu d'autres, hein, je ne veux pas multiplier. Qu'est-ce qu'est être dépendant d'une église quand celle-ci serait même le berceau de notre vie de foi, c'est là où nous avons connu la vie, que nous avons grandi, que nous avons vécu dans la paix et dans le bonheur. Ben oui, mais les églises où je suis né, eh bien, voilà, je suis retourné là où je me suis converti à Amsterdam, et quand je suis retourné, c'est à côté de l'aéroport de Schiphol. On y est allé, là, au printemps. J'ai même pas reconnu l'église parce que l'aéroport avait tout balayé sur des hectares et des hectares, les maisons que j'avais connues, l'église que j'avais connue. Il n'y a plus rien du tout. Alors, je suis revenu, j'étais triste. Parce que c'est là où, véritablement, j'ai fait mes premiers pas en tant que chrétien. Dépendant d'hommes de Dieu remarquables, que ce soit un pasteur, que ce soit un frère, que ce soit une sœur, que ce soit un ami, qui s'en vont... Parce que c'est la loi de la vie, tout simplement. Ils partiront et nous ferons la même chose. Dépendant d'une fonction devenue la raison première de notre existence. Je suis ceci, je suis cela, et je ne vis que pour ça. Attention, il y a un temps pour vivre et remplir des missions, et dans le ciel, ça sera autre chose. Parce que là, à ce moment-là, on se crispe, et on va monter en épingle. Finalement, non pas la gloire de Dieu dans ce que nous avons fait, mais notre propre gloire en disant ben, « nous avons réussi hein ». Ouais, oui. Demeurez ferme dans la foi. Soyez des hommes, nous dit la parole de Dieu. Soyez matures, soyez des hommes sûrs, volontaires. Édifiez-vous sur les fondements de Jésus et de sa parole, parce qu'il est le véritable tuteur de notre vie. Conclusion. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhovah, et après, la question, elle est posée à chacun d'entre nous. Et après? Après Alain, il y a eu Denis. Après Denis, il y aura quelqu'un d'autre, etc., etc. Parce que vous en avez connu, hein, des pasteurs ici, il y en a quelques-uns, je crois que moi je suis arrivé le septième, depuis la déclaration en préfecture de cette communauté. Voilà, mais il y en aura d'autres. Alors, il faut véritablement qu'il y ait un après. Et je vous stimule à ne pas mettre votre confiance seulement dans les hommes, oui, pour les choses indifférentes de cette vie, c'est vrai, et les choses spirituelles, mais c'est à Jésus qu'il faut regarder. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, et nul ne vient au Père que par moi, nous dit Jésus. Tout simplement, que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous donne sa grâce. Et on va se revoir bientôt. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté et ta fidélité. Parce que nous savons, Seigneur, que l'appel des sirènes, Seigneur, dans notre monde aujourd'hui, avec la publicité, avec le marketing, avec toutes sortes de choses, eh bien, il arrive à pénétrer aussi dans nos églises. Et ça, c'est une réalité où l'homme se fait demi-dieu, où l'homme parle de ses prouesses, il parle de ses performances, il parle de ceci et cela, et nous le voyons pratiquement, eh bien, comme un Superman. Mais, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons, Père éternel, que le monde, en effet, eh bien là, fait les choses avec comme une forme de magie, en quelque sorte. Tout est magique. Ouais, mais c'est pas ça. La réalité, Seigneur, c'est que le seul qui soit et qui mérite d'être honoré, c'est la personne de Christ. C'est sa parole qui doit être observée. Il y a des hommes qui vont passer dans notre vie. Il va y avoir des hommes qui vont nous consoler, qui vont nous exhorter, quelquefois qui pourraient être même sévères avec nous. Mais nous croyons, Père éternel, que l'autorité, c'est aussi une autorité inspirée. Et nous voulons te rendre grâce pour ne pas aller à tout vent de doctrine et ne pas faire n'importe quoi et de pouvoir, en effet, eh bien, avoir en priorité, la priorité des priorités, c'est Jésus dans notre cœur, dans notre âme, dans nos pensées, de toute notre force et dans notre esprit. Merci Jésus, bénis ton peuple. Amen.